Mémoire vive,
présentée par Perrine Carvran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Tout le monde a en tête les images des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, qui, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ont servi de décorum à un défilé de l'idéologie nazie, à une manifestation de puissance de la part d'Hitler et à l'exposition du mythe du surhomme nazi sur le devant de la scène. Mais qu'est-ce que cette mise en scène du sport par Berlin dit de la place du sport à l'époque, de la place de l'idéologie dans le sport et aussi de la place du corps dans le fascisme? C'est ce que tente de faire comprendre l'exposition qui se tient actuellement au Mémorial de la Shoah à Paris. Avec nous pour en parler, Patrick Clastre, qui est historien du sport et commissaire de cette exposition. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est une exposition, donc j'ai pu la visiter, qui est très large, très complète, qui parle aussi bien des Jeux Olympiques que des destinées du sport dans l'Italie fasciste, la France vichiste, l'Allemagne nazie, mais qui aborde aussi la question du sport dans des conditions d'enfermement, dans les camps de concentration, de l'utilisation du sport comme humiliation. C'est une exposition avec de multiples points d'entrée. Comment est-ce que vous avez construit cette exposition ?
Cette exposition, en fait, elle est construite en deux parties. La première est consacrée à la décennie tragique des années 1936, donc des Jeux de Berlin 1945, la sortie de guerre, avec un prolongement jusqu'aux Jeux de Londres 1948, qui sont, disons, les Jeux de l'austérité et aussi de la reprise de la vie sportive internationale. Et puis la deuxième partie de l'exposition, elle est consacrée à une vingtaine d'itinéraires de championnes et de champions, voilà, pour entrer dans la complexité de l'histoire aussi. L'exposition ne montre pas une histoire schématique, elle montre la complexité des itinéraires, je dirais, dans des itinéraires de vie qui sont comme des nœuds coulants, en fait, qui se resserrent sur ces champions. Pour une grande partie d'entre eux, ce sont des champions juifs.
Alors c'est une exposition exigeante, c'est une gageure parce que les documents qui sont ne sont pas toujours parlants, il faut les décoder, il faut aider le visiteur de l'exposition à entrer dans cette exposition. Il y a aussi un rôle important des images d'archives, des photographies. Est-ce qu'il y a des documents en particulier qui vous ont donné envie de monter cette exposition? Est-ce qu'il y a eu un point de départ?
Disons que le point de départ, c'était le spectacle grandiose que constituent les Jeux de Berlin dans le stade. 100 000 personnes, 200 000 personnes dans les extérieurs, 19 millions de brochures dispersées dans le monde en plus d'une vingtaine de langues différentes, 1500 journalistes, dont 550 journalistes étrangers qui se rendent à Berlin. Une propagande nazie incroyable qui s'est aussi exprimée dans le film de Leni Riefenstahl. Donc ça, ce sont les images qu'on a à l'esprit. À la fois les athlètes noirs américains qui remportent les victoires comme Jesse Owens, mais aussi la sculpture de l'homme aryen tel que Leni Riefenstahl le présente. Ça, ce sont les images de départ. Et puis il y a les images rencontrées au fur et à mesure du travail de commissariat général assuré par Caroline François et Hubert Strouk. Et ils ont fait un travail considérable, d'abord en exhumant des archives qui étaient conservées au mémorial, mais aussi en menant une campagne d'achat et en opérant la remontée aussi d'archives privées. D'ailleurs, j'encourage tous les détenteurs d'archives dites sportives à les confier au mémorial ou sinon à les faire connaître au mémorial parce que ça permettrait d'éclairer un certain nombre d'itinéraires de vie. Donc, dans ces photos, il y a des photos qui concernent les athlètes juifs, mais il y a aussi des photos qui concernent des athlètes qui sont aussi victimes de la répression. Je pense à la baraque sportive du camp de Châteaubriant où on voit le jeune Guy Moquet en photo à quelques semaines d'être exécuté, avec à ses côtés Auguste Delaune, qui est le secrétaire général de la Fédération du sport socialiste et communiste réuni français, qui lui sera exécuté par la milice. Voilà une photo qui était détenue par le Musée national de la Résistance à Champigny, mais qui là est mise en valeur et elle y trouve toute sa place. Bon, je pourrais en présenter d'autres.
Alors vous mettez en prélude à cette exposition, vous l'avez évoqué, un extrait du film Olympia de Leni Riefenstahl, où on voit donc un athlète courir avec la flamme olympique pour la rapporter à Berlin. Donc pourquoi vous avez choisi de commencer par ce film et qu'est-ce qu'il dit de cette vision de l'homme nouveau, de cette vision guerrière de la virilité? On peut lire ça dans le catalogue et dans l'exposition entre autres.
Oui, tout à fait. Le régime nazi tente d'inventer un homme moderne à la manière nazie, c'est-à-dire un homme guerrier avant tout, génétiquement pur, tel que le régime le théorise et l'imagine, c'est l'homme aryen, qui s'incarne aussi dans la nudité, qui renvoie à une tradition du rapport au corps d'une partie de l'Allemagne, dans une mécanique qui est à la fois hygiéniste et puis qui exclut aussi l'autre. Le relais de la flamme, c'est une innovation, puisque c'est la première fois qu'il y a une flamme qui est allumée à Olympie, qui parcourt d'ailleurs des régimes qui pour l'essentiel sont des régimes bruns, et qui arrive à Berlin pour enflammer cette vasque gigantesque. Le Karl Diem, qui est l'inventeur du relais de la torche, se défendra d'être un nazi. Il appelle quand même les jeunes Allemands de 16 ans à aller partir au combat, on est en 1945. Eleni Riefenstahl se défendra d'avoir fait un film nazi en disant qu'elle était du côté de l'esthétique. Il reste quand même que ce film a été projeté en avant-première, en présence d'Hitler, le jour de son anniversaire, et donc très clairement, ce film a une finalité politique indéniable.
Oui, et d'ailleurs, on le voit dans l'exposition, et c'est assez frappant de le noter. Au départ, Hitler ne voulait pas de ces Jeux olympiques. Il méprisait le rôle unificateur, pacificateur du sport. Il a fallu le convaincre.
Oui, il rejette les Jeux olympiques parce que les Jeux olympiques se présentent comme le lieu du pacifisme entre les patries, même s'il y a une dimension de comparaison et de compétition, c'est irrecevable pour le Reichsführer. Mais il est finalement convaincu, notamment par la propagande, par Goebbels, et aussi par Himmler d'ailleurs, qui voit un formidable instrument de propagande, justement une caisse de résonance, à la fois pour embrigader les masses allemandes, et on le voit dans les saluts nazis qui sont faits dans le stade, notamment quand la délégation française entre dans le stade, puisque la délégation française fait le salut olympique, bras tendus sur le côté, et la délégation a droit à une réponse de 100 000 bras nazis tendus vers elle, alors que les Américains et les Britanniques, eux, avaient expérimenté déjà à Garmisch-Partenkirchen pour les Jeux d'hiver cette réponse au salut olympique, et ils avaient donné ordre à leur délégation de ne pas le refaire à Berlin. Il n'y a pas eu d'ordre similaire pour la France, et d'une certaine manière, la délégation française s'est trouvée piégée.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on apprend dans cette expression que les Jeux olympiques auraient pu être boycottés, à la fois par les États-Unis, qui demandaient à ce que, dans ces Jeux, il y ait aussi une présence d'athlètes juifs allemands, et aussi à la demande de communistes français qui organisent une conférence pour le respect de l'idée olympique. C'est-à-dire qu'il y a quand même des pressions.
Il y a un mouvement de boycott très puissant aux États-Unis. Qui démarre immédiatement après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, donc après janvier 1933, dès le mois de février, dès le mois de mars, qui est porté par les organisations socialistes, communistes, les syndicats, les humanistes en général, les défenseurs des droits des populations de couleur, colored people, les féministes aussi font partie des animateurs du mouvement de boycott, les communautés juives d'Amérique du Nord. Et en Europe, le mouvement est un peu moins puissant. Il concerne essentiellement la France et les pays d'Europe centrale et orientale, mais il est indéniable que ce mouvement a eu lieu avec des conférences notamment convoquées à Paris. Il faut aussi prendre en considération des Olympiades qui contrent en quelque sorte les Jeux de Berlin comme les Jeux populaires de Barcelone qui n'auront pas lieu puisque la veille de l'ouverture de ces Jeux, il y a le déclenchement de la guerre civile.
Alors pour en finir avec ces Jeux olympiques, les Allemands triomphent donc dans le nombre des médailles, mais pas forcément dans les disciplines reines. Il y a un impact très fort à l'issue de ces Jeux olympiques du face-à-face, Jesse Owens et Lutz Lang, donc l'athlète allemand, qui vont garder, alors ça c'était très intéressant de voir ça dans l'exposition, qui vont entretenir une amitié l'un envers l'autre, et Lutz Lang qui va donc mettre à l'honneur Jesse Owens dans le stade au moment de sa victoire.
Oui, effectivement, les nazis, pour la première fois, détrônent les Américains. Ils montent sur la plus haute marche dans des disciplines qui sont les disciplines de la force ou de la gymnastique, qui correspondent à la tradition allemande. En matière d'athlétisme, les anglo-saxons dominent, et notamment les Américains, et en particulier les athlètes noirs, avec Jesse Owens, 4 médailles d'or à Berlin. Son concurrent à la longueur, c'est effectivement Lutz Long. C'est dans le dernier saut que Jesse Owens triomphe. Les deux hommes sympathisent, et cette amitié sera l'objet d'une brimade pour Lutz Long, puisqu'il sera très rapidement envoyé sur le front. Et il périra sur le front italien. Avant de mourir, il a envoyé une lettre à Jesse Owens dans laquelle il lui demande de prendre en charge son fils si jamais il venait à mourir. Et cette lettre, on en présente la traduction. Effectivement, c'est très poignant. Ça montre que les itinéraires sont plus compliqués qu'on peut l'imaginer et que tant du côté des sportifs juifs que du côté des sportifs allemands ou des sportifs qui sont victimes de racisme, les itinéraires se mêlent de manière très complexe à des temps difficiles.
Alors, il faut aussi peut-être remettre cette exposition et cette image qu'on peut avoir un peu vite, voilà, du sport de ces années 30-40 associées au fascisme, le remettre dans un contexte des années 20-30 de la mode du plein air, d'un corps sain, de la gymnastique, et un idéal qui est largement partagé aussi par la gauche. C'est-à-dire que l'idéal d'un corps sain est un idéal qui est très largement partagé à ce moment-là.
Oui, de manière très générale, l'ensemble des courants politiques, mais pas seulement les courants pédagogiques, ont pris en charge le plein air. C'est l'aérisme, l'hygiénisme, et ça remonte au milieu du XIXe siècle. Simplement, la nouveauté des années de l'entre-deux-guerres, c'est qu'il y a l'arrivée des sports anglo-saxons jusque dans les couches populaires. Alors que jusqu'alors, c'était la gymnastique qui était pratiquée, une gymnastique scolaire, collective, correctrice aussi médicale. Mais là, on a l'arrivée de pratiques qui sont des pratiques davantage de l'excès, de la compétition, qui sont les pratiques sportives et athlétiques. Et dans cet espace-là, effectivement, les États vont s'engouffrer parce que ces pratiques suscitent un engouement populaire. Les années 20, déjà, sont les années des grands stades, avec des dizaines de milliers de personnes. Notamment, le football fait une véritable recette. Hein, et le football est très tôt professionnel. Il y a des passions qui s'exacerbent dans les stades et du côté des pratiquants également. Je crois que l'exposition, elle montre aussi qu'il y a un engouement des jeunesses juives depuis la fin du XIXe siècle pour la gymnastique et pour le sport, avec même, je dirais, une avance des pratiques du côté des jeunes femmes juives par rapport aux autres femmes de l'Europe. Elles entrent plus tôt, me semble-t-il, dans la modernité du sport.
Oui, vous montrez bien effectivement ces associations sportives qui se teintent d'un côté comme de l'autre d'idéologie, et notamment ces associations sionistes ou ces associations, effectivement, vous évoquez le personnage de Max Nordau dans votre exposition, donc qui invente en quelque sorte le judaïsme du muscle. Alors c'est une formule de lui, une formule de l'époque, mais effectivement il y a un engouement pour les juifs, pour un sport et pour un juif nouveau en quelque sorte.
Effectivement, il y a l'idée que par la gymnastique, puisque Max Nordau pense à la gymnastique, c'est un médecin hygiéniste qui veut lutter contre la dégénérescence de la race. Hein. C'est un vocabulaire largement employé à l'époque, largement partagé. Max Nordau imagine fabriquer l'homme nouveau, hein, l'homme moderne de la judaïté contemporaine. Et il est un proche de Théodore Herzl, hein, qui lui-même appelle les jeunes juifs à relever le défi du duel à l'escrime, par exemple. Hein. La boxe va connaître un grand succès aussi. Hein. Il y a un investissement particulier des sports de défense, jusqu'à la constitution d'ailleurs de milices d'autodéfense. Et on a l'exemple de ce jeune Slovaque hein, qui, dans les années 20, est un champion d'acrobatie, un lutteur, qui va mélanger le jiu-jitsu, la boxe et la lutte pour inventer ce qu'il appellera dans les années 50 le Krav Maga, au moment où dans les années 50, il a entre-temps participé à la Seconde Guerre mondiale et à la création de l'État d'Israël. Et il est le préparateur physique des services spéciaux.
Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que ce rêve donc d'un idéal sportif sioniste va se traduire à travers les Maccabiades, qui seront en quelque sorte des Jeux olympiques juifs.
Oui, il y a les Maccabiades. Les Maccabiades, elles sont préparées par les clubs Maccabis qui ont fleuri dans toute l'Europe. Ces clubs Maccabis qui sont les clubs sionistes dits bourgeois, puisque leurs opposants socialistes, Hapoel notamment, hein, les considèrent comme du côté du capital. Hein, donc ce sont les obédiences que vous signaliez tout à l'heure. Donc à la fois un partage entre les marxistes, les socialistes, les libéraux d'une part, les sionistes et les non-sionistes d'autre part, ce qui rend la gamme extrêmement complexe, notamment dans le cas polonais. Les Maccabées, c'est assez étonnant, puisque c'est véritablement une préfiguration sportive, hein, athlétique de l'État d'Israël, avec deux Maccabées en 1932 et 1935. Celle de 1935, c'est un grand succès hein, populaire, avec plusieurs centaines d'athlètes, le stade qui se remplit à 15-20 000 personnes régulièrement, avec des grands champions aussi, hein, qui seront interrompus, ils ne pourront pas avoir lieu en 1938, mais qui reprendront après la Seconde Guerre mondiale. C'est pas une gourionne qui fera l'inauguration des 3e Maccabiades d'ailleurs.
Alors peut-être on peut en venir maintenant à ce qui est dans l'exposition un moment assez important, c'est la question justement des liens entre le sport et les régimes autoritaires, les régimes fascistes, et ce qui se traduit de l'exclusion dans la pratique sportive, alors que ce soit dans la France vichiste, dans l'Italie de Mussolini ou dans l'Allemagne nazie.
Alors effectivement, le sport est le lieu d'une oppression de différentes manières, soit par en haut, par les régimes, soit par en bas aussi au niveau des clubs, avec des paragraphes ariens qui apparaissent dès la fin du XIXe siècle, en Autriche par exemple, donc qui excluent les sportifs juifs, et qui d'ailleurs pour beaucoup découvrent ou redécouvrent leur judaïté sous la pression des brimades et des exclusions. C'est le cas de championnes aussi. C'est effectivement le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'utilisation du sport pour embrigader les masses dans les stades, pour endurcir les corps, préparer la jeunesse à l'expérience militaire. Et puis, c'est aussi, en fin de parcours, avec l'entrée en guerre et la mise en place des camps à la fin des années 30, c'est aussi les arrestations des dirigeants sportifs et jusqu'au dévoiement même de la notion de sport, puisque dans la langue de certains nazis, sport signifie brimade et même mise à mort.
Oui, on le voit bien, ça, dans l'exposition, c'est très frappant. C'est effectivement ce dévoiement du sport utilisé comme un instrument d'humiliation à l'encontre des Juifs, notamment dans les ghettos ou dans les camps de concentration. Il y a comme ça des scènes, des photos, des choses que vous montrez qui sont très frappantes.
Oui, il y a des scènes qui ont été prises sur le vif de génuflexions, de brimades physiques, jusqu'à des humiliations et des tortures qui aboutissent à la mort, particulièrement d'ailleurs odieuses pour certains champions, je pense à Attila Petschauer par exemple. Et puis il y a aussi ces mascarades, ces compétitions organisées de toutes pièces, compétitions d'athlétisme, compétitions de football, on en présente quelques exemples, qui ont été photographiées parce que c'est la visite de la Croix-Rouge et il faut donner voilà, bonne figure pour le camp. Donc, comme on a pu aussi faire des démonstrations de théâtre ou de musique, eh bien, on a organisé de toutes pièces ces manifestations athlétiques qui ont inspiré, je crois, Pérec, dans son livre autobiographique W Souvenirs d'enfance, et ce que je dis un peu dans le catalogue, là, ou dans les panneaux d'exposition, que c'est de mon point de vue, le W, parce que Pérec aime beaucoup jouer avec les lettres et les mots, le W, je pense que c'est la lettre qu'il construit à partir des anneaux olympiques. Et c'est vrai que cette histoire W ou Souvenirs d'enfance, c'est l'histoire de la perte de sa mère, mais entrecroisée avec une contre-utopie, une île dans laquelle on survit si on l'emporte à la course. Et donc c'est ce que montre la photographie d'une certaine manière à Theresienstadt, puisque effectivement les nazis avaient mis en place des courses à l'issue desquelles on pouvait vivre ou mourir.
Oui, il y a aussi l'exemple du nageur Alfred Nakache, qui donc était un grand nageur, un sportif médaillé en France, qui a été donc déporté et qui se retrouve donc à Auschwitz, obligé à la fois par les nazis à faire de la natation, et puis qui utilise aussi cette natation en cachette pour retrouver une dignité. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce double aspect du sport qui est montré dans l'exposition.
Tout à fait. Le parcours de Nakache est d'ailleurs très compliqué, puisqu'on le présente comme le nageur d'Auschwitz, donc à la fois parce que ses bourreaux lui imposent de nager dans une citerne d'eau glacée, d'aller chercher des clés ou des cailloux, parce qu'il y va aussi pour montrer qu'il a encore une existence et qu'il peut, à l'insu des gardiens, nager avec Noah Kliger notamment et faire la démonstration qu'ils ont encore un espace de liberté. Mais c'est aussi au cours de sa vie précédente, le nageur de Vichy, puisqu'il est protégé par le régime jusqu'en 1942. En 1942 encore à Marseille, il remporte un record du monde de natation dans la piscine de Marseille. Et puis dans l'année 43, tout bascule. Il est finalement piégé. Il a cru, je pense, être protégé. Et en fait, la nasse s'est refermée sur lui. Il est déporté avec sa femme et sa fille et il reviendra seul des camps.
Oui, peut-être pour conclure cette émission, il faut évoquer les Jeux Olympiques de 1948, donc ces Jeux de l'après-guerre qui sont organisés dans Londres, qui a été donc la ville bombardée, la ville qui a souffert de la guerre. Et ces Jeux auxquels participe justement Alfred Nakache, le symbole est assez fort.
Oui, il fait partie de la dizaine d'athlètes qui ont pu participer, mais il faut mesurer la distance. Il y a 12 années qui se sont écoulées, c'est énorme dans une vie d'athlète. Rares sont les athlètes qui sont capables de participer à des Olympiades sur 12 années de distance. Mais lui, effectivement, revenu des camps, il s'est reconstruit. Il a à nouveau battu des records de France, et puis il a été qualifié. Et malheureusement pour lui, il n'a pas pu achever la dernière sélection, donc il n'a pas pu être dans le dernier groupe de 8 nageurs pour concourir pour la médaille. Mais il effectivement, il a eu cette force hein, de pouvoir à nouveau atteindre le plus haut niveau sportif. On retrouverait d'autres exemples, hein, notamment je pense à un Philippin qui avait connu les marches de la mort, qui était imposé par les armées japonaises par exemple, ou cet autre concurrent qui a eu le bras arraché par une grenade et qui revient au tir au pistolet avec son autre main pour tirer.
Alors, ce qu'on voit bien dans l'exposition aussi, c'est la façon dont les instances sportives, en partie, se cachent derrière l'idée de la neutralité du sport pour ne pas forcément procéder à une épuration de ces instances sportives qui ont, pour certaines d'entre elles, largement collaboré pendant la guerre. On le voit bien au moment de ces Jeux olympiques.
Alors, c'est le cas, effectivement, du Comité international olympique, qui a choqué d'ailleurs le président du Comité national olympique et sportif français, qui a du mal à regarder l'histoire en face, mais on ne peut pas nier que... Pour le moins, le CIO s'est compromis dans l'organisation des Jeux de Berlin. Il avait les moyens de les déplacer, mais il est aussi pris dans une logique qui est une logique d'olympisation du monde. Et les membres du CIO, en fait, comme en France, on avait pu choisir Hitler plutôt que Blum, mais ils ont choisi Hitler plutôt que Staline. Et c'est la peur des Rouges, qu'ils assimilent d'ailleurs aux Juifs. Et je dois dire que les trois présidents du CIO successifs, Bailly-Latour de 1925 à 42, Siegfried Ekström le Suédois de 42 à 52, puis ensuite Avery Brundage qui a arraché la participation des athlètes américains pour les Jeux de Berlin, qui en est remercié d'ailleurs en devenant membre du CIO en 36, tous les trois, dans les courriers sur lesquels j'ai pu travailler aux archives du CIO, tous les trois sont de manière patente des antisémites virulents, hein, des racistes aussi quand ils dénoncent les athlètes noirs comme des nègres hein, qui sont bons qu'à faire de la course. Et il y a une sorte de fond commun idéologique sans nécessairement en faire des fascistes. Hein. Ils sont plutôt des conservateurs, libéraux, nationalistes. Ils ne sont pas forcément adhérents des thèses nazies. Mais pour ne pas avoir su ou pris la décision de mettre fin à la compétition, eh bien, ils ont fait le jeu, d'une certaine manière, des nazis.
Merci encore, Patrick Clastre. Je rappelle que vous êtes le commissaire de l'exposition « Le sport européen à l'épreuve du nazisme », une exposition qui se tient au Mémorial de la Shoah jusqu'au 18 mars, donc rue Geoffroy à Lagnier, et qu'on peut trouver avec cette exposition un catalogue qui est très, très riche, très intéressant. Et puis il faut signaler aussi un colloque dont vous revenez, colloque qui sera probablement édité chez Armand Collin, et puis une série de conférences, de projections. Il y a une programmation très riche autour de l'exposition.
Oui, il y a une programmation très riche. On pourra rencontrer Gretel Bergmann, Noah Klieger, qui sont des grands témoins, des historiens du régime de Vichy, du sport. Et puis, il y a toute une série de projections aussi, de films, de documentaires. Donc, on vous encourage véritablement à aller voir sur le site. Il y a aussi un mini-site pédagogique très bien pour les scolaires des écoles primaires ou des collèges.
Merci encore.
Merci beaucoup.
C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net.